Clé en main sur Radio Grand Ciel, RGC, Alain Romestan, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce mois de septembre pour une deuxième saison de Clé en main, l'émission qui vous présente des sujets peu traités, pas traités ou mal traités par les médias. Comme annoncé en juin, pour cette reprise, nous allons nous rendre dans un cabinet d'avocats conseil à l'international, spécialisé dans l'investissement dans les Caraïbes et en Amérique latine. Gordon Haskell nous accompagnera avec quelques morceaux tirés de son opus de 2002, Harris Bar. Les échanges ont toujours existé entre la France et Cuba, de la révolution cubaine à aujourd'hui, malgré les vicissitudes liées à l'actualité politique. Ils gagnent depuis quelques années en intensité, avec l'évolution de l'économie cubaine, impulsée par le président Raúl Castro et son successeur Miguel Díaz-Canel. Un cabinet d'avocats parisiens, spécialisé dans le conseil juridique à l'international, NC Avocat, Nunez Chauffour Avocat, se lance dans un vaste projet de développement touristique en y incluant un important volet d'infrastructures. C'est de ce projet dont nous allons parler aujourd'hui. Le contexte politique a évolué entre la présidence Obama et la présidence Trump. Le titre 3 de la loi américaine Helms-Burton, entré en vigueur le 2 mai dernier, autorise les Américains à présenter des procédures devant les tribunaux américains contre des étrangers pour trafic présumé de biens ayant fait l'objet de nationalisation en 1960 à Cuba. En pratique, cela se résume à 4 poursuites concernant des entreprises qui ont été nationalisées à l'époque. En dehors de cela, les investissements sont possibles sans difficulté.
I go out most nights, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song.
Clé en main se trouve aujourd'hui dans un cabinet d'avocats conseil parisien à l'international. C'est en effet une émission qui se veut originale dans un certain nombre de domaines que les auditeurs connaissent peu. Et donc l'idée, c'est de voir quelles activités on peut avoir dans un cabinet d'avocats conseil à l'international. Merci de nous recevoir aujourd'hui, Judith Nunez et Pierre Chauffour.
Merci à vous.
Dans un premier temps, je crois que pour les auditeurs, ce qui peut être intéressant, c'est que vous vous présentiez, c'est-à-dire d'où venez-vous, où allez-vous, en quelque sorte.
Merci beaucoup, Monsieur Alain Romestan, cher ami, journaliste. Merci à Maître Pierre Chauffour, collègue et confrère, et à vous tous. Qui nous lisent aujourd'hui. Et un cabinet conseil, c'est un cabinet d'avocats justement qui apporte des conseils juridiques à toutes sortes de personnes naturelles, morales, qui ont besoin de ces conseils juridiques, de ces conseils techniques pour faire une activité. Une activité. Moi, en tant qu'avocate cubaine, j'étais formée à Cuba, à l'université de Camagüey, ensuite à La Havane. Et puis, j'ai eu la possibilité de continuer mes études ici en France, à l'université de la Sorbonne. C'était une véritable chance de pouvoir continuer en France. C'était très, très enrichissante, cette expérience d'études à Cuba et en France, bien entendu. Et puis ensuite, nous avons fait, j'ai continué mes études. Puis j'ai découvert que l'Espagne m'offrait des possibilités qui, à ce moment précis, c'était d'un grand intérêt pour moi du point de vue professionnel. Donc, à Madrid, je continuais cette formation professionnelle en faisant un master 2 en droit des affaires, notamment dans les droits internationaux. Et puis, en arrivant ici à Paris, j'ai eu cette possibilité de me développer professionnellement dans un cabinet d'avocats, dans le cabinet Lemassu, qui m'a ouvert les portes pour me former. Et croyez-moi, mes chers amis, j'ai eu beaucoup de chance encore. Et je suis en profité de cette opportunité. Et puis, j'ai continué. Je continue ce parcours en tant qu'étrangère, venant de Cuba, arrivant en France avec l'envie de m'investir, avec l'envie de me développer, de continuer mon travail, déjà commencé sur place. Et j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des collègues, j'ai rencontré des confrères qui m'ont aidé. Ceci m'a permis par la suite d'ouvrir ma propre société. C'était le cabinet Conseil Núñez et Torres. C'était un cabinet qui siégeait dans le 16e arrondissement. Et puis c'était vraiment une occasion et l'opportunité d'éprouver mon savoir-faire et mes expériences. Les expériences acquises à Cuba, à l'étranger, en Espagne, en France. Mais c'était aussi un challenge avec moi-même, avec mes clients. C'était un métier, c'était une position. Comment vous expliquer? Je devais me surpasser en tant que professionnelle étrangère dans un pays comme la France. Et j'étais vraiment affrontée à des situations avec des clients très exigeants, clients parlant des entrepreneurs, des chefs de projet, des constructeurs, des développeurs, qui exigeait à chaque fois que les résultats soient vraiment d'une extrême qualité. Moi, en tant que jeune avocate, à ce moment précis, j'avais besoin d'un soutien. Et puis, moi, je suis quand même avec ces clients qui aujourd'hui, ils continuent à travailler avec nous. Nous avons surmonté ensemble cette période de développement, d'apprentissage et de formation. Je trouve que le milieu des affaires, c'est un milieu qui forme l'être humain, qui nous forme en tant que professionnels. Et moi, en tant que femme, le milieu des affaires, le milieu de l'investissement étranger, est une expérience professionnelle, personnelle, et puis et qui construit, qui me forme et qui me dépasse aussi par moments. Et justement, grâce à l'appui de Maître Pierre Chauffour, à la confiance qu'il a déposée en moi, on arrive à trouver cet équilibre pour le bon déroulement des projets internationaux, qui sont des projets de grande importance pour les milieux de l'investissement dans les pays, notamment dans les pays en Amérique latine.
What does it matter if it's a quarter to two? The love of my life has been long overdue. What does it matter if it's three or it's four? Don't even try to make sense of it all. I guess I got all the time in the world. I guess I got all the time in the world. So lock me up in heaven and throw away. Cause if that's what they call home sweet home, then it's home sweet home for me. Must be the only place to be. Must be the only place to be. Am I still dreaming? Am I asleep? How did I get into this water so deep? But what does it matter if it's five after five? You're giving me the time of my life. I guess I got all the time.
Et vous, Maître Chauffour, donc, quel itinéraire alors, avant d'en arriver là, aujourd'hui?
Moi, j'ai un itinéraire assez classique d'avocat au barreau de Paris. J'ai fait des études de droit à Paris 1, puis un Master 2 de droit des affaires et de droit économique, toujours à Paris 1. Et très vite, je suis arrivé dans la profession d'avocat. J'ai prêté serment en 1987, ce qui ne nous rajeunit pas, évidemment. J'ai une activité classique d'avocat plaidant, spécialement en droit des affaires. Et à côté de ça, une activité internationale relativement développée. Je suis un des, avec mon associé Bernard Cahen, avec lequel je suis associé depuis 93. Nous avons développé un réseau international d'avocats du monde un peu entier, en réalité, avec lequel nous faisons des sessions de formation, mais également des affaires ensemble. J'ai eu une activité un peu originale de consultant international sur des projets financés par la Banque mondiale à l'égard des pays d'Afrique francophone. Je pense par exemple au cadre réglementaire des télécoms au Cameroun ou des autorités de régulation, la loi électricité en Mauritanie, sur lesquelles je suis intervenu, parmi d'autres. Et puis j'ai un parcours de droit des affaires, essentiellement, dans lequel j'ai pu, grâce à ce métier, et ce métier pour ça est parfait, développer des négociations avec des entreprises, des entrepreneurs ou des particuliers d'ailleurs, avec cette originalité de la mission d'avocat qui est que nous avons des personnes qui vont nous confier leurs intérêts et qui vont nous faire confiance. Et nous faisant confiance, ils nous disent « Écoutez, maître, veuillez nous permettre d'atteindre tel ou tel objectif ». Et cette confiance-là est une espèce de dépôt que nous font les clients qui est très important. C'est ce qui, en réalité, fait de cette mission d'avocat la chose, une des choses les plus agréables, cette confiance entière que nous font les clients. À charge pour nous de ne pas la décevoir, cette confiance, et de faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai connu Judith Nunez. Nous nous sommes d'abord occupés ensemble. Nous continuons d'ailleurs à nous occuper ensemble de problèmes de droit des affaires d'ambassade d'Amérique latine ici, à Paris. Et puis nous avons développé d'abord un savoir-faire, ensuite une intelligence, une cohérence entre nous, ouais. Et qui nous a permis de nous intéresser à l'investissement d'entreprises françaises, ou pas seulement françaises d'ailleurs, vers des pays d'Amérique latine, des Caraïbes, et Judith Núñez étant cubaine et avocate à La Havane, nous avons pas mal développé de choses vers Cuba. Évidemment, c'est le territoire naturel sur lequel on a envie d'aller faire un peu d'affaires. On a envie de présenter des clients. On a envie que des pays aussi qui peut avoir quelques besoins aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons développé ensemble ce que nous appelons une convention organique, c'est-à-dire le moyen pour un avocat étranger et un avocat français de travailler ensemble. Et dans un cadre qui est plus clair pour les clients. Nous sommes, cette convention organique s'appelle NC Avocat pour Núñez Chauffour Avocat, et qui est vraiment, c'est le moyen pour nous, l'organe qui nous permet de dire à des investisseurs, par exemple, qui auraient envie de s'investir à Cuba, d'aller explorer ce marché qui est en train de s'ouvrir, de leur dire, nous, on est là pour vous aider, c'est notre mission. Notre mission n'est pas de faire de l'argent, c'est d'aider tout le monde à développer des affaires à Cuba pour que chacun, les Cubains d'une part, les investisseurs d'autre part, gagne à ce projet.
Quelques mots sur l'association AvoCuba. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle fonctionne et naturellement quels sont vos interlocuteurs par rapport à Cuba, par rapport aux institutions, par rapport au gouvernement cubain?
Alors, une petite précision, AvoCuba était le premier nom de notre convention organique. Maintenant, nous l'avons appelé NC Avocat. Pour une raison simple, c'est que nous avions peur en gardant AvoCuba que nous restreignions en fait à l'île de Cuba, qui n'est pas notre seul terrain d'action. Et donc on a préféré montrer la structure de deux avocats qui travaillent avec donc Cuba, bien sûr, évidemment.
Et l'Amérique latine,
les Caraïbes, l'Amérique centrale, d'autres pays éventuellement. Mais enfin, on est plutôt sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, comment nous fonctionnons? Je vais peut-être laisser Judith Núñez parler des contacts avec les investisseurs, avec les autorités locales. Nous, notre idée, notre philosophie, notre manière de voir, c'est de permettre de mettre en relation des investisseurs d'un côté et des systèmes de gouvernement de l'autre, dans le but d'investir de l'argent. Investir de l'argent, ça veut dire développer. Développer des marchés, développer des affaires pour le plus grand profit de chacun. Il est clair que Cuba a besoin d'investissements. Il est clair qu'il y a quelques infrastructures nécessaires aujourd'hui et que Cuba est tout à fait ouvert à avoir des investisseurs étrangers, entre autres, pas seulement, mais aussi des investisseurs étrangers qui viennent développer des marchés. Donc nous, d'abord, ce que nous cherchons, c'est des gens intéressés par le marché cubain ou d'autres pays d'Amérique latine, mais d'abord, dans un premier temps, cubains, et qui voient, comme nous le voyons, l'opportunité d'aller investir là-bas. Ensuite, nous avons le contact avec les autorités des pays concernés, en spécialement les autorités cubaines, parce qu'on est dans des pays où vous n'arrivez pas en disant « j'ai de l'argent, je vais investir ». Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Cubains, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir évidemment des investissements, mais pas n'importe lesquels. Nous jouons le rôle à la fois de filtre et d'aide à l'investissement. C'est nous qui faisons en sorte que ça se passe bien. Pourquoi nous sommes en position de le faire? C'est que les autorités cubaines nous font confiance. Ils disent « voilà ». Le cabinet NC Avocat, il est capable de sélectionner des investisseurs, d'une part, de nous les présenter, d'une deuxième part, et troisièmement, de les accompagner dans leurs investissements si nous les avons retenus. C'est cet accompagnement qui, mon Dieu, est au bénéfice de chacun, hein, et fait que nous allons pouvoir faire en sorte que et les investisseurs et les autorités cubaines, en l'occurrence, soient heureuses de travailler ensemble. Nous aurons été à la fois une clé et un facilitateur d'affaires. C'est pas nous qui investissons, mais en revanche, on est là pour aider tout le monde à investir.
Vous êtes cubaine, vous connaissez parfaitement la réalité cubaine.
Oui.
Les observateurs disent que le Cuba de Raúl Castro et le Cuba de Canel Diaz ne sont pas identiques et qu'il y a à l'heure actuelle des évolutions entre la politique menée du temps de Raúl Castro et la politique menée actuellement. Quelles sont ces orientations nouvelles et quelle est la part, disons, de réforme que l'on peut trouver à Cuba actuellement?
Bien. C'est une bonne question, très pertinente. Moi, en tant que Cubaine, je peux vous dire que Raúl Castro a été notre président pendant l'année 2018 jusqu'à 2018. C'est un homme pragmatique, visionnaire, qui est toujours à faveur des réformes conceptuelles et structurelles. Il a essayé, et même il a réussi, à établir des réformes importantes dans le pays. Des réformes économiques. Une ouverture économique nécessaire pour Cuba. Miguel Díaz-Canel a été élu par les députés de l'Assemblée nationale cubaine. Díaz-Canel, en tant que successeur de la présidence, c'est un homme formé pour la révolution cubaine. C'est un homme qui continue la politique de développement de l'économie cubaine. Il facilite l'ouverture du marché cubain. Aujourd'hui, grâce à ces modifications, grâce aux modifications de la loi d'investissement économique, promulguée dans l'année 2014, nous pouvons activer nos ressorts, nous pouvons activer nos contacts, notre clientèle pour aider nos dirigeants, nos entreprises cubaines à collaborer, à s'appuyer dans les investissements étrangers et à développer l'économie du pays. Ce sont deux présidents qui ont fait et qui font, je parle au présent, le maximum pour développer l'économie cubaine. Je trouve, en tant que cubaine, qu'effectivement, le contexte est très difficile. Il est très sensible. Nous vivons une période d'instabilité économique mondiale, pas seulement à Cuba. La situation avec les États-Unis ne facilite pas l'économie cubaine, ne facilite pas une entente politique entre les deux pays. La politique américaine, par le passé, nous a permis de débloquer une situation lors de la présidence de M. Obama. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte, un peu plus brutal, un peu plus rude. Nous essayons, en tant que Cubains, je parle en tant que Cubains et pas en tant qu'avocat, en tant que Cubains, de surmonter cette période délicate, économiquement et politiquement sensible. Maintenant, en vous donnant mon avis comme avocate cubaine, formée à Cuba, qui a exercé à Cuba et qui exerce en France, je peux vous dire que les possibilités s'ouvrent. Que Miguel Díaz-Canel, notre président, donne cette possibilité. La preuve, c'est la loi édictée dans l'année 2014, la loi d'investissement étranger. Aujourd'hui, nous avons des facilités pour les entrepreneurs qui viennent à Cuba de s'investir avec beaucoup plus de facilités, avec beaucoup plus de bénéfices du point de vue fiscal, du point de vue du montage juridique. Et nous avons également les possibilités de trouver une entente beaucoup plus rapide avec notre interlocuteur principal, que ce sont les entreprises cubaines. Nous allons toujours rencontrer les entreprises cubaines comme un interlocuteur crédible, viable et fiable. Cuba offre en même temps des garanties juridiques. Je souhaite parler rapidement de ces garanties juridiques que nous offrons aux investisseurs étrangers. Et nous reviendrons certainement lors de cet échange, de cette conversation. Mais aujourd'hui, et pour revenir à vos questions, ces deux présidents ont été pour moi un exemple. Her secrets in her shoulder bag, they're sewn into the seams. There's a journey that she has to make on the freeway to her dreams. She asks herself, how come my life's forever in a spin? And she hides a tiny photograph in an old tobacco tin. She keeps her makeup in a box with its lid of tortoiseshell. I caught a glimpse inside it once of a jewel beneath the veil. I loved her
love her still, though it's not what she believes. One day I hope she'll see me there on the freeway to her dreams. She keeps her makeup.
Dans les projets que le gouvernement cubain a à l'heure actuelle, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes, quelques activités qui sont mises en avant et qui devraient donc intéresser les entreprises françaises dans des domaines qui sont peut-être différents de ceux que l'on a l'habitude de voir dans les affaires internationales ?
Oui, bien sûr. Actuellement, la modalité principale pour l'arrivée des capitales étrangers se présente sous la forme des contrats de gestion moyennant une participation financière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'investisseur, il peut entreprendre son projet à Cuba pour rénover des installations touristiques ou autres, pas forcément touristiques ou autres, en assumant la gestion administrative et en assumant également la construction et la rénovation de son projet. Il ne s'agit pas seulement d'arriver à Cuba, de déposer un projet ou bien une intention d'investissement et d'obtenir le marché. Il s'agit de prouver sa bonne foi, de collaborer avec l'économie cubaine, de développer l'économie cubaine, et bien évidemment de développer un marché qui a besoin actuellement d'investissement d'un capital étranger. Cuba, ce n'est pas le seul pays qui a besoin d'investissement étranger. Malheureusement, j'utilise ce terme, beaucoup de pays et des pays du premier monde ont besoin d'investissements étrangers. Cuba aussi. Et Cuba a besoin de se développer. De se développer pour continuer. Pour continuer le bon chemin, comme nous avons la tendance de dire à Cuba. Et l'investissement, actuellement, se fait surtout dans le milieu touristique. Nous pouvons encourager nos investisseurs dans le développement hôtelier, dans le développement des parcs thématiques, dans la construction et rénovation des terrains de golf, dans l'écotourisme, dans le service des protocoles, dans la construction des marines, dans la rénovation des ports. C'est-à-dire, nous avons vraiment une marge assez large à offrir à tous les entrepreneurs qui souhaitent s'investir dans un pays comme Cuba. Pas seulement Cuba, hein. On peut parler également du Venezuela, tellement actuellement qui se trouve malheureusement dans une situation assez sensible du point de vue économique. Mais pour revenir à Cuba, il y a des projets qui sont vraiment d'actualité à qui nous pouvons
faire confiance. Les interlocuteurs institutionnels, depuis la France, on a des a priori sur ces interlocuteurs. On a l'impression qu'il y a des points faibles et des points forts. Est-ce que vous pouvez, en tant que grande connaisseuse de la situation cubaine, nous dire quels sont ces points forts et ces points faibles que vous pouvez avoir dans les interlocuteurs institutionnels que vous avez donc en face de vous, Cubanacan, l'Institut aéronautique civil de Cuba, etc.
Les points forts que nous avons avec Cuba, c'est justement que l'investissement est un investissement direct, que l'investisseur, l'entrepreneur peut développer un projet en négociant directement avec les entreprises compétentes cubaines, sont nommées les entreprises parce qu'il y en a plusieurs. Ils peuvent discuter directement avec les entreprises compétentes cubaines. Et puis, les gouvernements cubains facilitent davantage cet investissement. Pourquoi ils facilitent cet investissement? D'abord, parce que l'économie, elle en a besoin. Parce que la politique du pays fait appel à cette ouverture du marché. C'est une ouverture de marché contrôlée et stable. Ce n'est pas l'ouverture du marché comme on peut retrouver dans d'autres pays de l'Amérique latine. C'est un avantage pour l'investisseur. C'est une garantie également pour l'investisseur, car du point de vue juridique, certes, il est encadré, mais il a des garanties parce que l'État l'assure cette garantie juridique. C'est-à-dire, ces biens, ces capitaux ne seront pas confisqués, ils ne seront pas saisis. Il aura des bénéfices fiscaux. Il aura l'heure de son investissement, pendant les 8 premières années de son investissement, des avantages fiscaux. Il aura, bien évidemment, les possibilités d'embaucher la main-d'œuvre cubaine, c'est-à-dire il va créer, il va collaborer à développer l'économie interne. Et ensuite, il pourra commercialiser les produits et son marché, les propres marchés qu'il a créés à Cuba, il pourra les commercialiser à l'extérieur. Donc c'est bien la formule que notre cher confrère appelle la formule gagnant-gagnant. L'investisseur arrive à Cuba, il développe leur projet, en sachant tout d'abord qu'il aura un interlocuteur direct, que ce sont les entreprises cubaines, et puis il pourra développer pas seulement son marché à Cuba, il pourra ensuite l'internationaliser là où il voudra, comme il souhaitera.
Saw the sunlight on your face. I was wrong and scared. but you brought me to a standstill, treasuring your grace. Yeah, yeah. Lovely lady, what have I done? I got sunshine, moonlight, road and one. I throw my hands up to heaven, praising for the light. For who else could have sent me the sunshine in the night? You're the sunshine in the night. Yeah, yeah. You're the sunshine.
En ce qui concerne ce partenariat entre entreprises françaises et entreprises cubaines, est-ce qu'il y a possibilité pour une entreprise française d'être majoritaire au sein de ce partenariat à Cuba ?
C'est une excellente question. C'est une excellente question. Légalement, elle est possible. Et cela dépend du projet. Cela dépend du projet en soi. Il y en a des projets qui sont discutés à niveau gouvernemental. Et ce sont des gros projets. Et bien évidemment, les structures par lesquelles les investisseurs rentrent, c'est une structure en tant que une société sur le concept de capital propre. 100% capital propre. Là, sous ce concept, l'investisseur, il est majoritaire. Les plus courants à Cuba, ce sont les entreprises mixtes, ou bien les joint ventures. L'investisseur aura comme intermédiaire et interlocuteur, comme je vous disais précédemment, les entreprises cubaines. C'est-à-dire qu'il devra voir en eux un associé commercial. Tout simplement, c'est un associé commercial en face avec qui on s'associe. Et puis, c'est une entreprise cubaine qui aura, ça dépendra du projet, un certain pourcentage, et la partie étrangère, un autre pourcentage.
Venons-en au projet de développement touristique Marea del Portillo. Maître Chauffeau, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet, nous le présenter dans son état actuel, et nous verrons par la suite le développement que ce projet peut connaître.
Alors, Marea del Portillo, c'est un projet que nous portons depuis quelques mois, un projet de rénovation touristique globale. C'est ce qu'on appelle les resorts maintenant. Et c'est trois hôtels, deux marinas, un golf, un aéroport. Dans une région de Cuba, c'est un peu un cliché, mais qui est une espèce de paradis sur Terre, coincé entre l'océan et la lagune, dans des conditions absolument extraordinaires, un peu à l'écart des grands centres, mais pas assez éloigné pour s'y ennuyer. Et l'idée du gouvernement cubain au départ et que nous portons consiste à faire de ces structures déjà existantes une rénovation lourde pour arriver à un hôtel, enfin un complexe hôtelier au niveau palace. L'idée c'est quoi ? C'est d'attirer les touristes étrangers de cette zone Caraïbes, Amérique centrale et États-Unis, de les faire venir dans un endroit où ils auront leurs loisirs préférés, la mer, les bateaux, le golf. Pour ça, on rénovera un aéroport de manière à les accueillir dans de très bonnes conditions. Une chose sur laquelle je voulais revenir éventuellement, je voudrais pas que... Nous avons en ce moment des discussions avec des entrepreneurs qui nous disent « Oh là là, avec M. Trump, on va pas investir à Cuba. » Oh là, non, on peut investir à Cuba, c'est pas un problème. Il y a deux, trois choses qui ne sont pas possibles. C'est d'investir dans des systèmes, dans des entreprises nationalisées à l'époque de la chute de Batista. Mais c'est tout. Autrement, l'investissement à Cuba, il se fait très facilement. Il se fait... La seule chose qui est un peu inhabituelle par rapport à la France, quoique pas tant que ça, c'est qu'on doit le faire en coordination avec l'État cubain. C'est tout. Et nous, qu'est-ce que nous sommes ici? Nous sommes les coordinateurs, donc le trait d'union entre l'État cubain et les investisseurs. Mais on parle de Marea del Portillo, on a tout un ensemble de projets possibles dans le tourisme ou même dans d'autres secteurs d'activité sur lesquels on est capable, faisant ce lien avec l'État cubain, on est capable de proposer des projets à des entrepreneurs français ou italiens, par exemple. On discute en ce moment avec des Italiens ou d'autres pays pour leur dire « Venez saisir cette opportunité d'investir dans un pays qui s'ouvre, dans un pays où on voit bien que le progrès est en marche. Et ce progrès passe par une ouverture. L'ouverture qui a longtemps été interdite pour un tas de raisons, en particulier l'embargo des États-Unis, mais qui maintenant commence véritablement à s'ouvrir, commence à bénéficier des apports de l'étranger, est conscient de cet apport que ça peut lui donner et qui est très content de voir arriver des investisseurs. Il y a tout un ensemble de partenaires commerciaux qui vont dans des salons maintenant à Cuba et qui découvrent un pays, qui découvrent des opportunités qui sont vraiment intéressantes. Il est certain que les premiers investisseurs qui vont investir un peu lourdement à Cuba vont être accueillis comme le Messie. Ah mon Dieu, des gens qui s'intéressent à nous. C'est ce que Jean-Paul II, quand il était à Cuba, disait. Si vous voulez, ouvrez-vous au monde pour que le monde s'ouvre à vous. C'est exactement ça. Et c'est bien comme ça aujourd'hui que Cuba voit les choses. Avec, au-delà de l'affaire du côté business, cette ouverture des peuples que nous connaissons en Europe depuis des années, qui est, ben, mon Dieu, c'est intéressant d'avoir des interlocuteurs étrangers. C'est un apport culturel, intelligent, enfin, business aussi, mais c'est tout cet apport-là qui, à Cuba, qui en a été longtemps privé, est un vrai souffle d'oxygène qui leur permet de dire, mais venez chez nous. Nous, on est juste là pour aider. C'est notre métier, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et on veut vraiment aider dans cet aspect gagnant-gagnant, chacun a y gagné, autant les entreprises que le gouvernement cubain. Au-delà du gouvernement cubain, le peuple cubain, il sera très content d'avoir du travail grâce à des investisseurs étrangers, il sera très content de pouvoir consommer, il sera très content d'accueillir des étrangers qui vont leur permettre de partager une culture, de partager un art de vivre. Cuba, comme la France, est un pays d'art de vivre. C'est très spécifique. Et les gens sont très contents de voir ça. Il y a quelques investissements encore à faire, mais dans quelques années, une poignée d'années, ces investissements seront faits et Cuba sera un pays aussi ouvert et aussi accueillant en termes d'infrastructures que tous les autres pays de la zone.
Gonna be your jack of diamonds, never leave you all alone. While you can cry upon my shoulder, I wanna be your Al Capone. Gonna love you till the morning, gonna be that through the night, 'cause you're the only one who ever make me feel everything will be alright now. It's gonna be alright. Make everything alright now. It's gonna be alright. I'll be your knight in shining armor, like those guys in Hollywood, wrapped around like Cinderella. Robin Hood, I'm gonna show you San Francisco. It's gonna thrill you to the bone and drive you back up to Chicago. I wanna be your Al Capone. Make everything alright. Make everything alright now. Make everything alright now. It's gonna
Dans le projet Marea del Portillo, il y a naturellement l'aspect touristique, rénovation d'hôtels, construction, etc. Mais il y a aussi les infrastructures. Vous avez par exemple la construction d'un aéroport. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que c'est important pour le public français de voir que on s'intéresse naturellement à tout ce qui peut être tourisme, à ce qui peut être, disons, vacances, ce qui peut être soleil, tropique, etc.
Ouais.
Mais pour le pays aussi, les infrastructures, c'est important que dans un certain nombre de domaines, il y ait des évolutions. On l'a vu ces derniers temps, par exemple, avec des accords qui ont été passés avec la Russie pour rénover le réseau ferroviaire, par exemple, de Lille. Ce réseau ferroviaire, il profite à tout le monde une fois qu'il est rénové. Donc là aussi, ces infrastructures, elles vont profiter à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
En fait, oui, vous avez tout à fait raison. L'idée de construire un petit aéroport ou bien un aérodrome tout près de Marea del Portillo, dans la région de Marea del Portillo, près de la province de Granma, peut favoriser la clientèle qui arrivera au resort et bien entendu la population autour. Et nous travaillons avec une entreprise pour l'instant française qui a manifesté son intention de nous aider, de collaborer, de construire cette infrastructure. Et on vous dira davantage l'heure de votre programme radio. Pour l'instant, nous avons l'intention de cet investisseur. Et puis, effectivement, ça peut favoriser le développement de la région.
Merci. On va vous souhaiter bonne chance pour
Merci.
La suite de ce projet.
Merci à
qu'il
vous.
Se monte. Et puis, c'est vrai que c'est assez enthousiasmant dans cette époque de morosité générale de voir... le côté positif de cette collaboration entre Cuba et la France. Les entreprises françaises ont besoin de Cuba et Cuba a besoin des entreprises françaises.
Exactement.
C'est un beau programme.
C'est exactement ça et c'est ce qui est très motivant pour nous, c'est de faire un lien entre des gens qui ont les uns et les autres besoin du partenaire. Cet aspect-là est assez agréable.
Et à l'identique pour toute l'Amérique latine et les Caraïbes.
Exactement. Des pays qui ont besoin de l'étranger et l'étranger a besoin de ces pays. Et c'est ça que nous voulons développer.
Coming from, don't know which way I'm gonna turn. I've been in and out of this frying pan so long, I stand aside and let it burn.
Merci à Gordon Eskel pour ses plages musicales et merci surtout à Judith Nunez et Pierre Chauffour qui nous ont fait pénétrer dans les coulisses de l'économie, partenariat, entreprise internationale. Ce qui permet aux citoyens informés que nous voulons être d'aller plus loin. Vous pouvez retrouver cette interview ce soir à 20h, vendredi prochain à 21h et sur le site radiograndciel.fr en rediffusion à la demande. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle livraison clé en main. Prenez soin de vous et des autres.
Don't ever like to think I know where I will be. Don't worry about the years ahead. Don't have any expectations. Don't worry about what's being said. Get tired up and hustle, using my muscle. Well, it seems too big a price to pay. Well, all I ever really wanted was what I got right here today. I'm feeling nothing just weighs me down. I much prefer to travel light. Too many people want to talk about who is wrong and who is right. I ain't gonna do it, I see right through it. It's what brings everybody down. I'm gonna take my chances on tomorrow till they put me in the ground.
Clé en main sur Radio Grand Ciel, RGC, la radio qui rapproche les hommes.
Walking in the wrong direction. No, I should be walking home. Smart enough to know much better.